La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Indéductible. Ce pourrait être le titre du nouveau roman de Philippe Dian, lui qui a déjà publié Impardonnable, Incidence, Impureté, Inéquitable. Indéductible, c'est le mot choisi par Paul Valéry pour qualifier le présent original. Un mot repris par François Hartog pour démarrer une nouvelle enquête sur le temps, une enquête qui nous mène des Grecs jusqu'au futur incertain, mais en partie déjà écrit, de notre nouveau régime d'historicité, l'Anthropocène. François Hartog est cette semaine l'invité de la suite dans les idées, et vous l'avez déduit, il sera dans un futur très proche rejoint par Philippe Dian, qui lui nous propose avec son nouveau roman de nous téléporter en 2030. François Hartog, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études émérite à l'école des études en sciences sociales. On vous doit de nombreux ouvrages, un en particulier dont j'aimerais rappeler le titre, Régime d'historicité, qui avait paru en 2003 aux éditions du Seuil et qui est un livre très important, beaucoup cité depuis. Un livre qui a ouvert pour vous un programme de travail que vous continuez avec ce nouvel ouvrage, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, qui paraît dans la bibliothèque des histoires de Gallimard. Un livre qui a subi les aléas du temps bousculé que nous connaissons depuis le printemps et depuis cette pandémie de Covid, puisque c'est un livre qui devait paraître avant l'été, au mois de mai, et qui a été repoussé en cet automne, vous laissant tout juste la possibilité d'ajouter deux pages de post-scriptum pour prendre en compte cette actualité, ce temps que nous vivons et qui est un temps particulier. Et c'est tout simplement par là que j'aimerais qu'on commence, François Hartog. Comment vous êtes-vous relu, au fond, dans ce contexte très particulier qui a suspendu notre temps ?
Bien. Le manuscrit donc était fini bien avant le confinement. Et c'est un peu, vous savez, ça fait un peu comme les paroles gelées de Cherablé, qui tout d'un coup se trouve décongelé et on entend des paroles qui ont été gelées. Bon, il y a un peu de ça dans ce phénomène. Et alors, ce que j'ai essayé de faire avec ce post-scriptum auquel vous venez de faire allusion, c'est de, non pas de rendre compte de la situation Covid, pandémie, ça c'était évidemment impossible et puis je n'ai pas les moyens de le faire, mais au moins de voir si le chemin que j'avais suivi dans ce livre Chronos, en suivant au fond les avatars de Chronos, est-ce que ce chemin se trouvait totalement contredit par ce qui se passait, ou est-ce que non ? On pouvait très bien inclure ce qui était en train de se passer dans ce chemin. Non pas que je veuille réduire et dire voilà, j'avais mon système embrasse tout et tout est réglé, non, c'est pas ça du tout, mais en ayant suivi ces avatars, c'est-à-dire le jeu de ces trois concepts sur lesquels on reviendra peut-être, sur Chronos, Kairos, Crisis, eh bien, le Covid, ou la Covid, faisait intervenir ces trois formes de temporalité. Puisque vous avez un temps qui est nouveau, qui est tout d'un coup, nous est tombé sur la figure, qui est le temps du virus. Bon, temps inconnu.
Toujours inconnu.
Toujours largement inconnu. Bon, le temps du virus. Et face à ce temps du virus, alors, un certain nombre d'autres temporalités se sont mises en mouvement. Il y a eu le temps de la médecine. Bon, les médecins, ça c'est leur travail depuis Hippocrate.
Ça c'est plus classique, oui.
Oui, c'est depuis Hippocrate. C'est-à-dire, ils essayent de comprendre, de saisir ce temps du virus, ce temps de la maladie, plus généralement, et de repérer un rythme. Bon, hein, le médecin, il repère justement les jours critiques. C'était la grande affaire des médecins hippocratiques. Repérer les jours critiques, c'est-à-dire ce concept de crisis, de jugement, de crise. Bon. Et ils ont essayé de nous dire, ben voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et on voyait bien qu'ils avaient bien du mal, eux aussi, à faire entrer dans le temps chronos, le temps singulier du virus. Et puis, et c'est pas tout, puisqu'est venu s'ajouter le temps politique. Bon. Le temps politique qui a dit, moi, je peux pas abandonner tout ça, ni aux médecins, ni simplement au virus, donc il faut que je reprenne la main. Et le temps politique, ça a été, c'est la guerre. C'est la guerre, une déclaration du président de la République, qui du même coup reprenait la main. Puisque si c'est la guerre, c'est moi qui l'amène. Bon, alors après, il a omis de dire, il fallait probablement nommer, quand on dit c'est la guerre, il faut nommer un ministre de l'armement. C'est très important. Là, il n'y a pas eu de ministre de l'armement. Bon. Et puis, il y a eu ce temps, alors inouï, que nous avons tous vécu, qui est le temps du confinement.
Vécu différemment les uns des autres.
Alors, bien sûr qu'il n'est pas uniforme, suivant la position dans laquelle on se trouvait, mais qui a quand même été, pour tout le monde, un temps inouï, puisque c'est un temps suspendu. Donc, en un sens, c'est un temps qui n'est que du présent, et où pourtant les jours passent. Alors, comment arriver à vivre ça? On a perçu que pour certains, c'était très compliqué, et encore plus compliqué pour ceux qui, étant dans le temps du confinement, devaient néanmoins travailler. Qui avaient donc un pied dans les deux. Le temps d'avant, comme on a dit très vite, et le temps nouveau, ce temps suspendu, qui était le temps du confinement, et avec les grands écarts que ça impliquait.
Et avec les difficultés de synchronisation, qui sont aussi des difficultés de synchronisation spatiale, on y reviendra peut-être, parce que vous vous intéressez aussi à cette mutation numérique qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de gérer finalement des coprésences à distance, oui. et que ça ne rend pas un certain nombre de tâches très, très faciles. Mais avant d'en revenir à ce temps que nous vivons, et puis plus particulièrement aussi au futur, il faut qu'on refasse ensemble le chemin que vous avez fait pour cette enquête, ce chemin qui démarre avec les Grecs, et peut-être que vous clarifiez les trois concepts que vous avez déjà utilisés, celui de Chronos qui donne son titre au livre, mais aussi celui de Kairos et celui de Crisis.
Oui, alors très vite, parce que c'est une très longue affaire, une très longue histoire et assez compliquée, mais de manière quand même, j'espère, claire. Donc Chronos, bon Chronos, tout le monde connaît Chronos, c'est le temps ordinaire, le temps qui s'écoule, le temps de la vie, le temps des quotidiens.
Le
bon,
temps du monde.
Le temps du monde. Kairos, alors c'est un autre concept grec, bon Chronos c'est son nom en grec, Kairos c'est aussi un concept grec, et Kairos c'est une invention assez subtile des Grecs, des anciens Grecs, puisque Kairos ça désigne le bon moment, l'instant décisif, l'occasion à saisir, enfin tout ce qui fait aussi le quotidien. Bon. Et les Grecs avaient construit ce double rapport au temps, Chronos et Kairos.
Un dédoublement du temps.
Oui, et une des choses qui m'apparaît, enfin que j'essaye de montrer au fil du livre, c'est que finalement Chronos, bon, c'est celui qui par excellence est insaisissable. Je crois que la meilleure définition que je pourrais donner, c'est l'insaisissable. Bon. L'insaisissable, et c'est justement pour ça que les humains n'ont jamais cessé d'essayer de le saisir. Et ils ont inventé toutes sortes de procédures pour le faire, et une des façons de faire, ça a été de le dédoubler, de le cliver. Bon. Et quand vous mettez d'un côté Chronos, de l'autre côté Kairos, vous pouvez essayer de penser l'action. En combinant ce temps ordinaire, ce temps des jours, ce temps
qui file,
oui, ce temps qui coule, bon, et puis Kairos qui est ce moment qu'il faut saisir, et c'est la bonne combinaison des deux qui permet d'avoir une action réussie. Et les Grecs ont beaucoup élaboré là-dessus. Et puis Crisis, alors Crisis, j'en ai déjà dit un mot, c'est aussi un concept grec. Et il a été particulièrement en usage dans la médecine, puisque, bon, crisis a donné dans notre vocabulaire la crise, mais crisis, c'est au fond ce qui discrimine, hein, c'est ce qui vient trancher, hein, d'où le sens de jugement. Le jugement, c'est ce qui vient trancher, et qui marque un avant et un après du jugement.
Et alors, la crise, il y a un monde d'avant et un monde d'après.
Alors après, on verra, oui, mais bien sûr. Mais crisis, donc, est utilisé par les Grecs comme ça. Et, alors, après, il faut sauter, faire un petit saut, et voir, s'apercevoir plus exactement, que ces trois concepts grecs, bon, avec dans l'univers de la Grèce ancienne, ont été transférés dans le monde de la Bible.
Un peu par hasard, enfin, ça aurait pu ne pas se produire.
Ça aurait très bien pu ne pas se produire. Ça aurait très bien pu ne pas se produire, parce que...
C'est une affaire de traduction de la Bible.
C'est la traduction. C'est la traduction de la Bible hébraïque en grec. qui s'est faite à Alexandrie à partir du 3e siècle avant notre ère. Bon. Et il se trouve que ces traducteurs, les Septante, c'est pour ça qu'on appelle, ils étaient en principe 70 ou 72, mais enfin peu importe, ont choisi pour rendre le temps, les concepts de temps, le rapport au temps dans l'univers de la Bible, ces trois concepts grecs. Et ce transfert, donc tout à la fois, relie ce monde au monde grec, et marque une différence, puisque bien sûr, il se les approprie pour en faire autre chose. Et alors là, si je vais encore plus vite, les kairos écrisis se trouvent promus, au fond, dans cet univers, occupent les premières places. Et chronos va se trouver réduit. Bon. Kairos écrisis, dans le... Alors, sont particulièrement utilisés, particulièrement mobilisés dans les textes de les apocalypses juives. Et Chrysis devient Chrysis avec un K majuscule, c'est-à-dire le jugement dernier. Le jugement avec un J majuscule, le jugement dernier. Et Kairos, avec aussi un K majuscule si on veut, c'est le moment du jugement. Bon, donc, avant le jugement... Si vous lisez les grands textes, par exemple les grands textes prophétiques, avant le jugement, on a bien le sentiment, l'expérience qu'un temps nouveau est en train d'arriver. On est entré dans un temps qui, parce qu'il y a un certain nombre de signes dans le ciel, etc., etc., qui marque que la fin est proche. Donc ça, c'est ce, le temps, c'est ce kairos, et l'accomplissement du kairos se trouve au moment du jugement. Les chrétiens. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inscrivent dans cet univers apocalyptique des apocalypses juives. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent évidemment ces trois concepts, mais n'oublions pas, ou plutôt rappelons, que le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. C'est du grec. Il n'y a pas de traduction, là, c'est du grec. Alors on peut dire c'est du bon grec, c'est du mauvais grec, c'est un autre problème. Mais c'est du grec. Et le grec de Saint Paul, c'est du grec costaud. Bon, donc c'est du grec. Et ils reprennent ces trois concepts et en font évidemment un usage différent qui ne peut plus être celui du monde des apocalypses juives, même si les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est une secte apocalyptique juive. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent Chronos, contrôlent Chronos encore plus étroitement et introduisent une distance entre les deux concepts de Kairos et de Chrysis. Bon, Chrysis, le jugement dernier, demeure, évidemment, puisque c'est l'horizon inéluctable, avec l'Apocalypse, bon, précédé par l'Apocalypse. Et Kairos, alors, on peut rester dans cette configuration conceptuelle, mais Kairos se trouve, par les chrétiens, déporté du côté de ce qui est nouveau, bien évidemment, l'incarnation. Et le kairos, dans les textes de l'Évangile, le kairos avec K majuscule, c'est l'incarnation. Et l'incarnation, c'est l'ouverture d'un temps nouveau. Bon. Et qu'est-ce que l'histoire du monde, entre l'incarnation et le jugement, entre l'incarnation et l'Apocalypse, c'est tout simplement du présent. Bon. D'où cette définition que je propose. Le régime d'historicité chrétien, si on reprend cette appellation, le régime d'historicité chrétien, c'est un présentisme apocalyptique. Bon. Et à partir de là, on peut essayer de réfléchir, mais alors qu'en est-il par rapport à notre présentisme contemporain? Voilà. Et puis, il y a tout le chemin entre les deux.
Bon, on va le continuer, mais ce présentisme apocalyptique chrétien va être pendant des siècles la matrice à travers laquelle les sociétés occidentales vont penser le temps. Une matrice extraordinairement prégnante dont on voit comment elle dérive de l'héritage grec en le transformant progressivement, enfin au moins en deux étapes. Et puis, à un moment donné, ça va quand même se fissurer au moment où un régime moderne d'historicité va apparaître, François Hartog.
Oui. Donc, toute l'histoire des premiers siècles du christianisme, avec la mise en place justement d'un temps chrétien, qui se marque par les calendriers, par la constitution d'une histoire universelle, partout. Bon, et puis par la prise de pouvoir par l'Église, et puis par le fait que l'Empire devient un empire chrétien. Bon, donc tout ça va perdurer presque jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des remises en question, etc. Mais, en gros, ce cadre chrétien, c'est-à-dire domination de Kairos, puisque c'est le Christ, domination et domination de Apocalypse et jugement, et Chronos, au fond réduit aux utilités. Chronos, il faut bien tenir compte, il y a du Chronos, mais au fond il compte pas. Bon. Or, on peut voir tout le mouvement qui va conduire à l'émergence du temps moderne, ce qu'on a appelé le temps moderne, comme une façon pour Chronos, donnons-lui comme ça, animons-le, une façon pour Chronos d'échapper à cette emprise de Kairos et de Chrysis. Et le temps moderne, c'est Chronos se libérant et prenant l'ascendant, instaurant son empire, mais ne faisant pas disparaître Kairos et Chrysis. C'est ça que j'ai été très intéressant. Il ne les fait pas disparaître, je dirais d'une manière comme ça imagée, il les prend à son service. Il les reprend à son service pour les utiliser dans son sens.
Alors ça se passe comment? De quelle manière? Avec quels acteurs? Avec quels textes?
Oh, ça me passe avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de textes et beaucoup de siècles.
C'est plus compliqué que le passage de la Bible
grecque. Vrai, oui, ça se fait en plusieurs siècles. Bon, alors, une des manières, une des façons dont ça se opère, on peut retenir alors tout le développement de la science moderne conduit à ça, à partir du...
Les Lumières.
Partir du 7e. Ouais. Bon, il y a deux moments que j'ai particulièrement, auxquels j'ai été particulièrement attentif ou sur lesquels j'ai particulièrement attiré l'attention. C'est Buffon. Parce que Buffon, c'est quoi? Buffon, avec ses époques de la nature, c'est celui qui officialise le fait que le carcan, ce qui est devenu un carcan, c'est-à-dire ce cadre temporel chrétien, ne peut plus être opératoire. Et pourquoi? Parce que l'âge de la Terre, bon, c'est la géologie là qui intervient, l'âge de la Terre
déjà
est tel, oui bien sûr, l'âge de la Terre est tel que ça n'est impossible de faire cadrer ça avec la chronologie biblique qui avait fixé depuis très longtemps, depuis le judaïsme, qui avait fixé qu'au fond le monde devait durer 6000 ans. Alors, dès lors que vous trouvez que la Terre... Alors, vous savez, Buffon, il a fait des essais, il a fait chauffer des boulets de fonte, et puis voir combien de temps il mettait à se refroidir, et alors de là, il dirait que, en fait, l'âge de la Terre devait être... Alors, il a finalement dit 75 000 ans pour le refroidissement. Mais dans ses papiers, il y a plusieurs millions d'années. Et il n'a pas voulu le publier. Parce que...
Bon, ça pouvait lui attirer des ennuis.
Oui, ça pouvait. Et puis surtout, plus intéressant encore, bien... Parce que on est en 1775, par là, dans les années 70 du 18e. Plus intéressant, c'est qu'il dit, les gens ne pourraient pas se représenter ce que c'est.
Donc, c'est incommensurable.
L'idée que c'est plusieurs millions d'années, on ne sait pas, on ne voit pas. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, là, alors, il met 75 000, c'est déjà beaucoup. Et voilà. Donc ça, c'est, il fait sauter cette borne-là. Et celui qui va faire sauter l'autre borne dans l'autre sens, du côté du futur, du côté de l'avenir, c'est Condorcet. Avec son esquisse des progrès historiques de l'esprit humain, lui, justement, il introduit la notion de progrès indéfini. C'est-à-dire que, du coup, il n'y a plus de limite en direction du futur. Il dit pas que ça va durer toujours. Il dit pas progrès infini. Il dit progrès indéfini. Et Condorcet était un mathématicien, donc il savait employer les mots dans un sens précis. Et ça, ça me paraît les deux caractéristiques principales du temps moderne. Le temps chrétien, il est pris entre ces deux bornes. Incarnation, parousie. Ce qui avait pour conséquence que ce présent, puisque c'est un temps sans importance, sans vraiment consistance, alors... On lui en a donné un peu au fur et à mesure des siècles, les clercs du Moyen-Âge y ont travaillé. Mais ces deux bornes faisaient que l'incarnation, c'était l'ouverture d'un temps nouveau, mais c'était aussi le début du temps de la fin. Ce que Augustin a appelé la vieillesse du monde. Dès lors que vous avez cette fin, vous avez l'ouverture du temps de la fin. Et cet âge, ce présent, c'est le temps de la fin. Le temps moderne, il fait sauter ces deux bornes et il n'y a plus cela.
Alors on va aller très vite, on va pas s'arrêter sur ce présentisme sur lequel vous aviez déjà beaucoup travaillé. Et on va s'intéresser maintenant, François Hartog, à la manière dont finalement on est revenu à l'usage de cette expression « les temps de la fin ». Je prendrai juste comme exemple le livre de Pierre-Henri Castel, dont il était venu parler dans cette émission, sur ces questions d'apocalypse. C'est-à-dire, au fond, la conscience que nous prenons de plus en plus nettement de la finitude de la planète, en tous les cas, de l'extinction de l'espèce humaine
possible.
C'est pas les mêmes temporalités, planète et l'espèce humaine. En tous les cas, cette impression de plus en plus partagée que nous vivons déjà des temps de la fin, si ce n'est la fin des temps.
Oui. Ben justement, c'est pourquoi j'ai insisté à l'instant sur la question de ces bornes. Le temps moderne les fait sauter et vit dans cette espèce de, soit de bonheur, soit d'euphorie, soit de rêve, d'une humanité qui... Bien sûr, il y aura une fin, le soleil un jour se refroidira, enfin c'était plutôt comme ça qu'on voyait les choses, et il y aura une fin. Bon, mais c'est si loin que ça n'a pas d'importance pour nous. Bien. Avec le surgissement de l'Anthropocène, tout récent ce surgissement, qui tout d'un coup fait surgir un temps immense, mais du temps chronos. Ça n'est que du temps chronos, c'est ça, c'est très important. Bon. C'est du temps ordinaire, hein, mais qui se compte en millions, en milliards d'années. Alors donc, totalement irreprésentable. Bien. Ce surgissement réintroduit une borne, puisque il signifie, ou on peut l'interpréter comme, le signal qu'une fin est possible, sinon probable. Une fin de quoi ? Non pas de la Terre, mais une fin de ce monde que nous avons... les modernes considérés comme étant le monde. Bon. Et celui que nous avons construit avec les temporalités que nous avons fabriquées, avec tous les conflits que nous avons aussi apportés, etc. Bon. Et, mais qui était au fond le seul qui nous intéressait, le seul qu'on considérait comme pertinent. Bon. Mais à partir du moment où vous avez une borne possible qui surgit, inéluctablement, vous posez la question d'une entrée dans un temps de la fin. D'où ces débats qui ont beaucoup agité un certain nombre de gens et qui continuent parfois à les agiter encore un peu, quand ça commence ? Quand ça commence ? Alors, c'est le début de l'Anthropocène, vous avez tous ces débats, c'est pas 1950, c'est 1492, mais pas du tout.
Capitalocène,
c'est le néolithique. Oui, après on peut donner tous les noms qu'on veut, le Capitalocène, etc. Tout ça montre au fond qu'on ne comprend pas vraiment ce dont on parle. Alors je ne prétends pas moi comprendre ce dont je parle, mais enfin quand même, essayez au moins d'introduire un tout petit peu de logique dans tout ça. Bon, ce temps, ce début du temps de la fin, on comprend aussi qu'il permette la réactivation de ces schémas dont on vient de parler, c'est-à-dire cette perspective d'une apocalypse. Donc ça prouve aussi que ces schémas étaient restés là, plus ou moins disponibles, de manière plus ou moins pas vraiment élaborée.
Dans c'est-à-dire la culture.
Oui, dans la culture ordinaire. Bon, l'apocalypse, on n'a jamais cessé de parler de l'apocalypse, et il y a eu des moments, par exemple la guerre de 14 a réactivé beaucoup l'apocalypse, mais une apocalypse, et c'est ça un des traits des mobilisations contemporaines de l'apocalypse, négative, uniquement négative. C'est-à-dire là, c'est la fin. Bon, point. Alors que l'apocalypse, aussi bien les apocalypses juives que chrétiennes, non. C'est la fin de quelque chose et le début de toute autre chose. Bon, avec tout le problème de savoir qui passe d'un côté et de l'autre, qui reste, bon, voilà. Mais l'apocalypse, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme... C'est pas un moment drôle, ça, c'est sûr, mais c'est pas considéré comme la fin. Bon. Or, les apocalypses modernes sont uniquement négative.
Est-ce que cette réflexion, cette enquête que vous menez nous permet de mieux comprendre, peut-être, François Hartog, c'est une question décisive, une question politique fondamentale, peut-être la question politique la plus importante pour nous aujourd'hui, qui est la désarticulation entre des temporalités, et notamment ce temps chronos ordinaire, celui que nous vivons, même quand il est suspendu par une pandémie, péripétie, et puis ce temps qui est borné, désormais, de la fin, avec la responsabilité qui nous incombe de faire quelque chose. Et ce désaccord entre les temps qui rend toute action extraordinairement difficile.
Oui, oui, je crois. Alors, on ne peut pas expliquer, je ne prétends pas du tout ça d'ailleurs, de faire ça du tout, la situation présente uniquement par une considération sur les temporalités. C'est pas l'explication en dernier instant.
C'est pas réduire au temps.
C'est pas l'explication en dernière instance, comme on disait autrefois. Mais c'est une manière d'éclairer les nœuds, au fond, conflictuels de temporalité dans lesquels nous sommes pris. Ils étaient déjà assez nœuds, assez costauds, avant la pandémie. Bon. Et ils étaient assez costauds avant le surgissement de l'Anthropocène. Et d'un mot, c'était ce contraste entre justement ce que j'avais appelé le présentisme, un temps qui font se réduiser à l'instant et qui ne fabriquait à chaque instant ce dont il avait besoin comme futur, bon, et comme passé, renforcé par toute la révolution informatique et par tout le virtuel où tout se joue dans l'instant, les ordinateurs qui achètent sur les marchés en une
micro trading, etc.
Voilà, ouais. Et voilà, bon, tout ça renforce le présentisme. Et puis à côté de ça, vous avez donc ce surgissement d'un temps chronos très très long qui se compte en milliards d'années et qui vient buter, si on prend cette image, qui vient heurter la petite bulle présentiste. Bon, les gens étaient habitués à regarder pas plus loin que le bout de leurs pieds et tout d'un coup on leur dit, il y a un futur gigantesque qui vous tombe sur la figure, plusieurs milliards d'années, qu'est-ce qu'on fait? Bon, étant entendu que les conflits de temporalité qui existaient précédemment existent aussi toujours.
On va pas se projeter aussi loin, on va se projeter juste dans 10 ans, pour la deuxième partie de l'émission avec Philippe Gian qui nous rejoint. C'est après un extrait de Marc Kosselek, pas Reinhard Kosselek, qui est très important pour ces questions de temps, mais Marc Kosselek tout simplement parce que on l'entend dans 2030, le roman de Philippe Gian.
Walk down Orange Avenue, past the pizza shop. Walk down Magnolia Avenue past the cops and the Wawa trucks. Walk down Colonial past the 7-Elevens and the tattoo shops. Sunday morning downtown Orlando. Got in my taxi, he's listening to Cardi B. Got in my taxi, it's raining outside and it's muggy. Air conditioning, cracking, irritating my throat. Step back into the humidity, the air makes me choke. The show in Florida that night felt really good. Ben played piano beautifully and his drum machine went boom, 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 boom. My singing was stellar and the crowd was swooning to my crooning. We played Needles Disney and the crowd lit up. That song got the loudest cheering. Played a song for the victims of the Orlando shooting. The room was quiet and I felt uncomfortable singing it. And for reminding them of the tragedy of what went so horribly wrong down there. But it went okay, I just wanted them to know that I care.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
On parle de temps aujourd'hui à la suite dans les idées à propos de Chronos, le livre de François Hartog, et à propos de 2030, le nouveau roman de Philippe Gian. Bonjour Philippe. Ce roman est un roman d'anticipation, comme on dit traditionnellement, de légère anticipation. C'est intéressant cet exercice 10 ans. Et 10 ans, par exemple, pour imaginer une militante écologiste à couette célèbre. Dans 10 ans.
Bah oui, j'ai trouvé que c'était amusant, mais là, il y avait une question qui me brûlait depuis tout à l'heure en écoutant François Hartog. C'était, vous parliez d'apocalypse tout à l'heure, qu'il y avait des limites comme ça, on disait c'est une apocalypse, mais alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui va nous arriver, ou est-ce que c'est comme l'apocalypse dont on entend souvent que c'est la fin de quelque chose? À votre avis, on a un futur qui s'ouvre après ça. On peut imaginer, est-ce que pour vous c'est une apocalypse qu'on est en train de vivre en ce moment?
Alors ce serait une apocalypse très lente.
Oui, puis très...
Bon. Pas encore. Et si je vous lis bien, en 2030, c'est pas encore là.
Non, on est bon encore, on peut tenir.
Enfin, on est bon, non, on est quand même de plus en plus déglingué. Mais c'est pas encore là. Et est-ce que ce serait une apocalypse type canonique, si je puis dire? Je n'en sais rien, il y a peu de chances, honnêtement. Mais le scénario que vous évoquez est un des scénarios probables. C'est-à-dire qu'on voit bien, parce qu'on parlait tout un instant là de ces conflits de temporalité et l'impossibilité d'articuler tout cela, vos personnages sont complètement là-dedans. Ils sont complètement dans leur vie personnelle qui est un désastre, dans leur vie sociale qui est un désastre, dans leur vie professionnelle qui est un désastre, au milieu d'un pays qui oscille entre des chaleurs extrêmes et un froid terrible, eh bien, les perspectives sont pas glorieuses.
Elles sont pas glorieuses, mais en même temps, c'est vrai qu'on est en train de les vivre en ce moment. Donc, est-ce qu'on est à un point de rupture ou alors c'est une espèce d'épiphénomène qui nous arrive et qui va se répercuter ou qui va être plus violent ou pas, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose? Mais ça me rappelait tout à l'heure en arrivant, ça m'a amusé parce que c'est un truc certainement un peu stupide que je vais dire, mais quand vous parlez du temps, moi, ça m'a fait penser quand j'étais jeune étudiant au lycée, quand on me parlait des géométries non euclidiennes et euclidiennes. Alors est-ce que par exemple on peut penser que le temps que vous appelez le temps cosmographique, c'est la géométrie euclidienne, et est-ce que toutes ces géométries non euclidiennes, c'est ce temps psychologique, est-ce qu'il y a un rapport ou non? Est-ce que c'est moi qui suis complètement en train de rêver parce que je vous écoute et que vous évoquez plein de choses chez moi? Mais à votre avis, il y a un petit...
C'est une des questions qui n'a cessé de traverser les gens qui... la question du temps. Puisque savoir si entre le temps cosmique, le temps des astres, le temps des révolutions des astres, et le temps psychologique... on pouvait trouver une articulation. Bon, Platon disait que c'était pas son problème, Aristote non plus, mais Augustin, oui. Il a essayé de trouver une articulation en donnant, pour finir, la primauté au temps psychologique. Mais du coup, en laissant choir quand même largement le temps cosmique. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, enfin, comme ça, que le temps de l'Anthropocène, c'est en effet une espèce de temps, c'est du temps cosmique qui est là, et du côté du temps psychologique, c'est les faire avec les conflits de temporalité, le présentisme, désaccords entre le temps, et est-ce qu'on peut articuler tout ça?
Mais on a tout ça dans 2030, Philippe. On a la façon dont ce temps cosmique de l'Anthropocène pèse sur la vie de ces personnages, parce que les mobilisations pour la planète, etc., sont encore plus présentes qu'aujourd'hui, dans 10 ans. On sent bien qu'elles pèsent terriblement, et on a des personnages qui sont dans des temps individualisés encore plus qu'aujourd'hui, qui ont du mal à s'accorder, à synchroniser, qui sont dans des relations virtuelles, qui sont...
C'est parce qu'il y a des temps différents pour chacun, j'ai l'impression, et puis on peut élargir ça au fait que il n'y a pas longtemps, je lisais un bouquin assez génial de Richard Powers, qui est L'Arbre-Monde, où justement il explique que les forêts, les arbres communiquent entre eux et ne réagissent pas autant de la même manière qu'un humain. Et c'est tout à fait normal. Donc, j'ai pas voulu faire une étude un peu sur qu'est-ce qu'on va avoir dans 10 ans. C'était simplement pour me débarrasser éventuellement de discussions que j'ai pas envie d'avoir avec des gens qui trouvent que la petite Greta, il ferait mieux de se taire et qu'il y a des choses plus importantes en ce moment. Et c'est pas à des petits adolescents de nous donner des solutions. Donc c'était plutôt pour me débarrasser de ça. Et d'un seul coup, je me retrouve à dire, dans 10 ans, comment ça va se passer? Et j'ai eu l'impression que éventuellement, si on avait cette situation où on pourrait interroger une jeune femme d'aujourd'hui qui participe à ces manifestations, dans 10 ans, est-ce qu'elle pourrait nous dire « on a avancé » ou alors « on est encore en plus dans le brouillard et on comprend plus rien du tout ». Et c'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui, quand je parlais de ce moment qui pourrait être un moment d'apocalypse, est-ce que c'est aussi l'apocalypse de l'incompréhension complète? Est-ce que c'est ça qui va nous amener à la fin de l'humanité? La bêtise, l'incompétence, l'ignorance? Ou alors, est-ce que d'un seul coup, on va prendre conscience? Est-ce que ce temps suspendu qui était très intéressant tout à l'heure, savoir ce confinement d'un temps, on ne sait pas quoi faire, il existe, mais on ne sait pas s'en servir. Est-ce qu'au fond, on pourrait penser que ce genre de situation peut nous permettre de penser à un avenir qui n'est pas tout de suite immédiat? On a des tas de problèmes à résoudre. Et j'ai pensé que non, mais j'ai envie vraiment de réviser mon jugement et de penser qu'on va peut-être devenir un peu plus intelligent. Mais ça n'empêchera pas que dans 10 ans, à mon avis, on aura des problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui et qui ne seront pas dans 10 ans. Les pénuries, le climat qui se désarticule à tous les niveaux. Et moi, je plaisante en disant on ira boire du vin qui pousse au fin fond du pôle Nord. Je ne sais pas, c'est où on va soigner le cancer, mais les gens vont refumer quand ils seront dans leur chambre. Voilà. Donc je sais pas, et c'est peut-être aussi une espèce de manque de confiance en l'intelligence, entre guillemets, de l'homme. Peut-être qu'on est plus intelligent que ce que je crois. Quoi.
Moi, ce que j'ai lu dans ce roman aussi, c'est une manière très formelle de rendre compte de cette désarticulation, de cette manière dont se défend, dont se défait la société, à travers une façon de déconstruire le récit aussi, et une multiplication des ellipses, une manière de faire planer le passé sans nous donner vraiment les éléments, mais ces accidents qui hantent cette famille. Il y a, j'ai l'impression que de livre en livre, il y a une forme de déconstruction des histoires, et que on le sait depuis longtemps, ce qui compte c'est l'écriture, c'est pas les histoires.
Mais si vous mettez pas non plus une certaine écriture au service de l'histoire que vous êtes en train de raconter, ça fonctionne pas, quoi. Donc oui, il y a une espèce de déstructuration, mais ça vient aussi de cette incompréhension du monde et de la manière dont on peut éventuellement appréhender notre futur. Aujourd'hui, avant la Covid, on avait l'impression qu'il y avait des gens qui réfléchissaient suffisamment pour nous donner des pistes. Et là, j'ai l'impression qu'on sait plus rien du tout. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, on vit dans un monde où tout est sur le même plan, en fait. C'est-à-dire que des gens qui ont des choses à dire, comme Monsieur Hartog, et d'autres qui connaissent rien et qui ont aussi voix au chapitre à travers les réseaux sociaux, tout ça, j'ai du mal à penser que cette espèce de petite apocalypse qui nous arrive maintenant débouchera sur plus de compréhension. Peut-être qu'elle n'est pas assez violente encore. On n'a pas encore compris jusqu'à quel point il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça.
François Hartog.
Oui, vous parliez là à l'instant d'ellipse. Moi, ça m'a beaucoup frappé.
C'est du temps que je prends comme ça, mes élus.
Ça m'a beaucoup frappé en lisant. C'est que justement, il n'y a pas de récit possible. Enfin, il n'y a pas de récit continu. Mm-hmm. Bon. Et on apprend au détour d'une phrase que la femme d'un des personnages a disparu dans des circonstances tragiques, mais que si elle a disparu, on apprend 25 pages plus loin que il y avait des circonstances particulières. Et c'est comme ça à chaque fois, pour chacun des personnages. Hein. Donc, il n'y a pas de récit possible. Toute continuité est rompue. Ça, je trouve que c'est c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement intéressant et beaucoup plus convaincant ou fort que un récit qui dirait je ne peux pas faire de récit. Mm-hmm. Voilà.
Mais c'est vrai que ces ellipses aussi, c'est aussi une manière d'admettre que sur le moment, on n'a rien à dire dessus. Et que la rupture du récit, elle est intéressante dans la mesure où on va pouvoir la reprendre plus tard et de la transformer avec une espèce de compréhension un peu plus intéressante sur ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression aussi d'être... C'est ma culture. Je vais avoir 70 ans, mais quand j'avais 20 ans, c'était mes 68, c'était tout ça. Il y avait tellement de choses à essayer d'appréhender. Il y avait la musique, il y avait le cinéma, il y avait la mode, il y avait toutes ces choses. Et il y avait des tas de philosophies qui essayaient de se mettre en place. Et je me dis, mais ben, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et c'est vrai que je vois mal, justement, une espèce de continuité logique dans un récit. Parce que non seulement ça ne m'intéresse pas, mais c'est aussi parce que c'est pas ce que je vis. J'ai l'impression de vivre, et nous tous vivons dans des temps fractionnés. Et quand on compare justement le rapport au temps que pourrait avoir une forêt, des animaux, et moi je crois même, pour aller plus loin, que cette acceptation du temps, par exemple, basique qu'on connaît, je pense qu'il n'est pas le même chez l'homme et la femme. Je pense qu'on vit dans deux univers différents parce que justement, on n'a pas le même rapport au temps. Je pense que les femmes n'ont pas du tout le même rapport au temps que nous. Et ça, d'un seul coup, évidemment que ça bouscule les choses et que ça rend un discours linéaire inintéressant.
François Hartog, vous êtes synchrone générationnellement parlant.
Oui, au moins, oui.
Vous avez ce même sentiment que Philippe Dion quand il évoque mai 68 et la différence, au fond, avec aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Mais il y a un point, moi, sur lequel je mettrai l'accent. Alors, évidemment, parce que j'ai pas regardé ça particulièrement. Mais 1968, c'était à la fois quelque chose de très futuriste. Bon, il y avait encore la révolution à l'horizon. Et déjà de très présentiste. Hein, puisque c'était tout de suite. Bon, c'était ce mixte.
Cette tension.
Vous voyez, cette tension.
Avec un futur.
Et le présentisme l'a emporté. Bon, pour toute une série de raisons. Et aujourd'hui, alors, justement, chez les jeunes gens dont vous parlez...
C'est 77 après 68, no future.
Chez les jeunes gens dont vous parlez, que je connais mal, c'est... Il n'y a plus que le présent. Il n'y a pas de futur. Et c'est probablement aussi une des limites de leurs engagements. C'est cette idée que si quelque chose ne change pas demain, c'est que personne ne fait rien. Hein, ce thème de l'inaction me paraît, à la fois on comprend pourquoi, et en même temps, il ignore justement que Chronos existe.
Et Chronosphile, et on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, François Hartog, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. Il est publié chez Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires. Et le roman de Philippe Dion, 2030, est publié aux éditions Flammarion. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les Idées, où vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les Idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui Bernard Laniel. À la réalisation Marie Placé. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.